Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Nous connaissons tous l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la déportation des Juifs, la Shoah, l'extermination des femmes, des enfants, des vieillards. Mais il y a des histoires que l'on a enfermées, bouclées à double tour, que l'on ne raconte pas, que l'on ne raconte plus, que peut-être l'on n'aurait jamais racontées sans la force de persuasion, de conviction, de recherche, de travail et de courage pour nous raconter l'histoire de quelques enfants sauvés grâce à des courageux, à des justes. Pour nous raconter ces histoires des enfants de Vénissieux, une historienne qui a eu durant moultes années le courage, la conviction et la force et la volonté de sortir tout cela de ses valises, d'ouvrir les cadenas et de nous raconter cette histoire pour ne pas oublier, pour ne jamais oublier, pour que se souvenir que le devoir de mémoire, eh bien oui, c'est un devoir. Bonjour Valérie Porteret.
Bonjour, merci
d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre livre Vous n'aurez pas les enfants de Vénissieux aux éditions IXO. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de vous. Qui est Valérie Porteret?
Donc une historienne, sans doute une historienne engagée, qui a eu la chance de trouver un projet de vie toutes ces années qui était vraiment d'aller au bout d'une recherche qui était celle du récit de l'histoire du sauvetage des 108 enfants du camp de Vénissieux.
Oui. Alors moi, ce que je voudrais savoir tout d'abord, comme c'est une histoire que l'on ne connaît pas, comme sans doute bien d'autres, ça fait 25 ans que vous travaillez sur cette histoire, mais comment elle vous est venue à vous, à vos oreilles? Comment êtes-vous tombé dessus, si je puis dire?
J'avais vraiment l'envie de travailler sur un sujet d'étude inédit, oui, qui puisse à la fois permettre de traverser la Seconde Guerre mondiale, mais surtout de connaître quel avait été le sort des enfants lors de ces 4 années. Au départ, j'avais l'idée de parler de la défense passive, c'est-à-dire comment on avait pourvu au ravitaillement ou protégé les enfants lors des bombardements. Et de façon assez cruelle, j'ai appris que le chef du gouvernement français, Pierre Laval, oui, avait lui-même devancé les attentes des nazis et demandé la déportation des enfants. Et ça, pour moi, ça a été un choc immense qui me parlait difficilement, puisque moi j'avais été éduquée dans une famille où l'on enseignait le partage, de tendre la main, voilà, on m'avait éduquée d'une certaine manière et je ne me retrouvais pas dans cette histoire de cette France de Vichy qui était honteuse.
Alors, il y a une très belle préface de Serge Klarsfeld. Parlez-nous un petit peu de lui et de votre rencontre, de votre collaboration aussi.
Alors, Serge Klarsfeld, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir le rencontrer dès les débuts de ma recherche, en 93. Oui. J'étais allée à la rencontre d'un petit curé près de la Suisse, dont son responsable faisait passer des juifs dans la petite cour de la cure pour les sauver. Oui. Et il était tout seul, personne pour l'emmener à une cérémonie organisée par Serge Klarsfeld avec une pose de plaque. Et avec mes parents, on l'a emmené. Et de ce geste, j'ai eu un signe de Serge Klarsfeld à l'issue de la cérémonie pour que je vienne le voir, parce qu'il avait vu que j'avais conduit ce petit père à cette cérémonie. Il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai dit que je venais de débuter une recherche sur le sauvetage des enfants juifs du camp de Vénissieux. Et il m'a tout de suite dédicacé son nouvel ouvrage, Le calendrier de la persécution des Juifs de France, en me dédicaçant, en me disant qu'il espérait que je retrouve la liste des enfants et que je retrace l'itinéraire de ces enfants. Donc immédiatement, pour moi, jeune fille qui connaissait le parcours de ce couple formidable,
oui, avec sa femme, Béate, allemande.
Voilà, avec Béate. Mm. De plus, on avait été marqué à Lyon par le procès Barbie. J'avais vraiment suivi ça de près, que cette personnalités, hein, cet expert me disent que c'était un sujet de la plus haute importance, et ben j'ai ressenti ça à la fois comme un fardeau que j'allais porter sur mes épaules, mais surtout comme quelque chose qui allait vraiment me donner une force particulière d'aller jusqu'au bout.
Oui, on le sent, hein, cette force vive, je dirais, dans votre écriture, dans la façon dont c'est expliqué, je dirais presque heure par heure, en tout cas événement par événement. Alors c'est à Lyon, près de Lyon, Vénitieux, il y a une rafle, hein, commanditée à la demande des Allemands, donc par le gouvernement de Vichy, et il y a 108 enfants qui vont être extirpés, c'est-à-dire les familles sont appelées à être déportées à Auschwitz.
Tout à fait, on est au moment du plus grand pic génocidaire.
1942.
On a eu le 26 août 1942 une grande rafle des juifs étrangers des 10 départements de la région de Lyon qui sont réunis au camp de Vénitieux qui est situé dans la banlieue de Lyon, hein, parce qu'on veut éviter que la population voit les choses. Hein,
On cache les choses, bien sûr.
Et heureusement, à l'intérieur de l'enceinte du camp, grâce à un agent double à Vichy, on a des membres des œuvres charitables qui ont réussi à rentrer dans l'enceinte du camp et qui veulent participer à sauver le plus possible de personnes et sauver tous les enfants. Et en réalité, ils mettent au point un stratagème, une opération coup de poing, qui aura lieu particulièrement dans la nuit du 28 au 29 août 1942, où ils vont se rendre auprès de tous les parents dans les baraques pour leur demander d'accepter d'abandonner leurs enfants en faveur de l'amitié chrétienne, patronnée par le cardinal Gerlier et le pasteur Bogner,
qui était primat des Gaules,
de leur éviter d'être déportés.
Primat des Gaules, on rappelle le cardinal Gerlier, primat
des Gaules. C'est un des plus hauts personnages de l'Église dans toute la zone libre.
Oui. Ce qui est quand même incroyable, c'est demander à ses parents d'abandonner leurs enfants pour les sauver. Ça n'a pas été sans larmes, sans heurts, sans tristesse. Ça a dû être un moment épouvantable.
C'est un moment épouvantable et qu'aucune archive nous aurait retranscrit. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu créer une nouvelle archive en allant vers ces enfants, au départ avec mon enregistreur, puis plus tard avec mon caméraman, pour justement que chacun des enfants que je retrouvais puisse me raconter ces derniers moments passés avec leurs parents, qui est à la fois le moment le plus triste, le plus terrible de leur vie, d'ailleurs un moment qu'ils ne peuvent pas me raconter sans pleurer, sans voilà, et à la fois évidemment comme ils sont toujours vivants pour nous raconter, ils reconnaissent qu'ils ont eu une chance extrême de ne pas connaître l'enfer de d'Auschwitz et d'avoir pu avoir leur famille. C'est pour eux aussi un combat résistant, puisque en réalité la vengeance contre le projet de Hitler, c'est d'être là et de pouvoir nous parler de leurs parents, et donc du coup qu'on ait des noms, des histoires et qu'on puisse les connaître.
Tout à fait. Alors la phrase « vous n'aurez pas les enfants », c'est une phrase de la résistance.
Exactement, ce sont les mouvements de résistance qui ont placardé dans la ville de Lyon ce message, un message fort, vous n'aurez pas les enfants, puisque le préfet de région, Alexandre Angeli, va évidemment tout faire pour retrouver ses enfants. Il lance pour les retrouver. Il met la pression sur le cardinal Gerlier pour qu'il lui donne les adresses des enfants, puisque les enfants sortis du camp ont été immédiatement placés dans des familles ou des organisations. Et en réalité, les mouvements de résistance veulent inciter très fortement les Français, les Lyonnais, de tendre la main et d'héberger ses enfants. C'est vraiment un appel au sursaut des consciences. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de mal, puisque les populations ont été horrifiées par ces rafles.
Tout à fait. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est la collaboration entre Français et Juifs, entre ce prêtre, le presbytère. Le rôle du cardinal a été un petit peu plus complexe, malgré tout.
Il faut bien vous dire que le cardinal Gerlier, d'abord, c'est un homme qui a été avocat avant d'être cardinal. C'est plus qu'un théologien, c'est un pasteur, c'est un homme qui a toujours répondu aux attentes de tous nos sauveteurs depuis bien avant, depuis 39. Il est toujours à la tête des comités, au comité d'aide que ça soit pour les réfugiés allemands qui vont arriver des 34 à Lyon, puis les réfugiés allemands et autrichiens à partir de 36. Mais il est très proche de Pétain. C'est vraiment le vainqueur de Verdun. Oui. Et effectivement, à l'issue de ce sauvetage des enfants, puisque en réalité il a endossé la paternité de ses enfants, et ben là, il doit faire face à un choix, soit celui de faire confiance à Vichy et auquel cas les enfants auraient été déportés, soit de faire face à Vichy, de ne pas donner les adresses des enfants et encore plus de dire à Vichy qu'ils ont très mal agi et qu'il leur conseille cette fois de refuser le programme à venir de déportation des nazis.
D'ailleurs, après, il n'y a plus ce genre de programme. Enfin, aucun, ce genre de programme n'a plus été accepté ensuite.
Non. En fait, Vichy deviendra juste une vitrine et ensuite, les déportations, si vous voulez, la zone dite libre sera occupée très peu de temps après, en novembre 1942. Donc, on a la Gestapo qui rentre à Lyon.
Tout à fait, oui. Alors, durant ces 25 ans, par quoi avez-vous commencé à partir du moment où vous avez eu connaissance de cette histoire, par où avez-vous commencé?
Eh ben, tout d'abord, je suis passée par deux fronts. Un, le front des archives, trouver le plus possible, fouiller un maximum d'archives, retrouver des témoignages, trouver des pièces à conviction, trouver une liste des enfants, parce que je n'avais rien, je n'avais pas de liste d'enfants, je n'avais pas la preuve des actes de négation de paternité. Les actes de négation de paternité, je les ai trouvés en 2003, alors qu'on pensait qu'ils avaient disparu. Ma liste des enfants sauvés, je l'ai retrouvée en 87.
Et vous les avez retrouvés
elle
où
était incomplète,
vous les avez retrouvés
complétée. Et puis à côté, surtout, c'était essayer de retrouver aussi les grands sauveteurs, Lily Garel, Elisabeth Thier, Charles Lederman, Jean-Marie Soutou, d'ailleurs que j'ai pu enregistrer. Lily Garel, d'ailleurs, est devenue une amie que j'ai pu interroger jusqu'en 2013. Et elle vivait avec moi cette recherche parce qu'elle s'était toujours demandé, comme tous les sauveteurs, ce qui au final était
devenu
les
enfants.
Parce qu'il restait encore deux années de guerre.
Et oui.
Vous voyez, où il fallait qu'ils soient protégés.
Oui, et puis il y a aussi un très beau chapitre sur Julius.
Ah oui, Justus.
Justus.
Alors Justus, c'est le seul adulte sauvé que j'ai pu retrouver.
Il avait 20 ans.
Voilà, il avait 20 ans et il a été sauvé grâce au jeune docteur Adam qui en réalité était encore infirmier. Il n'avait pas pu passer encore sa thèse de doctorat à la suite de la guerre. Et ce jeune qui travaillait pour Vichy à l'intérieur du camp, et ben pareil, a œuvré en réalité comme un agent double, comme un résistant, en organisant la lutte médicale, puisque dans la folie de Vichy, on ne déportait pas les intransportables, on les soignait pour ensuite mieux les déporter. Oui. Alors vous imaginez que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé ensuite dans les hôpitaux lyonnais des résistants qui ont pu maintenir aussi le sauvetage et notamment celui de Justus qui a simulé une crise de péritonite à l'intérieur du camp.
Oui. Alors vous disiez vous avez retrouvé certaines listes pas avant 2003, mais la liste des parents, enfin les documents d'abandon, vous les avez retrouvés sur Lyon, sur Vénissieux, ils étaient où ces documents?
Les actes de négation de paternité à l'entête de l'Amitié chrétienne, je les ai retrouvés aux archives départementales du Rhône.
Oui. D'accord. Alors, elles étaient bien tenues. Il y avait vraiment la liste des 108 enfants?
Non, il n'y avait pas de liste. C'est des documents qui comportent 4 pages j'en ai retrouvé 82 sur les 108 enfants.
Donc,
sachant que les 82, pour certains, comportent des noms de fratrie. On a un acte de délégation de paternité par famille. Donc parfois, par exemple, si je vous donne l'exemple de la famille Sixler, vous avez le nom des 4 petites filles qui ont été sauvées.
Au-delà de ça, est-ce que, bien sûr, après, les familles ont été déportées, mais je crois qu'il y a des adultes qui ont pu être sauvés.
Oui, en tout,
545.
En 3 jours, sans armes, que par l'intelligence et l'esprit, on a 471 personnes sauvées, dont les 108 enfants. sur les 1016 prises, ce qui fait qu'on a 545 déportés et 471 personnes sauvées. C'est vraiment une opération coup de poing réussie, emblématique, incroyable, sensationnelle.
Vous savez, ça m'a fait penser, sans doute l'avez vu, comment il s'appelle, ce militaire allemand, ça y est, j'ai un trou de mémoire, qui a sauvé des gens qui faisaient rallonger les listes, la liste de Schindler. Votre livre m'a fait penser à ça, d'une autre façon, mais ça m'a fait penser à la liste de Schindler.
Oui, ben, sans doute que, enfin, ce qu'on peut espérer, c'est qu'un jour, le livre, vous n'aurez pas les enfants, soit aussi connu que l'histoire de Schindler. Mmh. À la différence, c'est que les sauveteurs, nos héros du camp de Vénissieux, n'ont rien attendu derrière du sauvetage. C'est-à-dire que toutes les personnes qui seront sauvées, ils l'ont fait, si vous voulez, entre guillemets, gratuitement.
Oui, tout à fait, bénévolement, voyez, avec un grand cœur. Oui.
C'est un acte vraiment
un acte d'humanité.
Tout ce que ça englobe.
Mmh, tout à fait.
Et ce qui est frappant dans ce sauvetage, c'est que vous retrouvez des gens de toute obédience. C'est-à-dire que au-delà des différences politiques, religieuses, tous ces gens se sont unis avec qu'une idée, sauver le plus possible des internés. Mmh. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est véritablement un message qu'il faut propager, comme quoi c'est possible, ça a été fait, et c'est à la fois une leçon de ce qu'il fallait faire, mais de ce qu'il faut encore faire aujourd'hui.
Tout à
fait.
C'est
en cela que le livre « Vous n'aurez pas les enfants » est vraiment, si vous voulez, un livre militant.
Tout à fait.
À la fois, il donne à connaître une histoire particulière, unique de la Seconde Guerre mondiale, et à la fois, c'est une histoire qui doit rentrer dans toutes les écoles, dans toutes les maisons, parce que il ouvrira des champs de réflexion à nos jeunes pour se dire qu'aujourd'hui encore, c'est possible, le bien doit être propagé. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit que le bien doit vraiment être un combat de tous les jours.
De tous les jours, de chaque
encore
instant.
Encore faut-il connaître les ficelles.
C'est
à travers « Vous n'aurez pas les enfants », eh ben, on a des ficelles justement pour comprendre ce qu'il faut faire.
Mais cela s'est passé donc en août 42, à un moment où les camps de concentration n'étaient pas encore très connus. Les gens, il y avait comme ça des choses qui passaient, dont on parlait, mais ça n'était pas véritablement connu ou su de la population d'une façon générale.
Non, mais la population d'abord a été émue par la façon dont on est allé arrêter ces juifs étrangers à leur domicile. Vous savez, trois semaines avant, il y avait eu la grande rave du Vediv.
Oui, en juillet, 16 juillet 42.
En zone d'Itlib, on avait l'impression que comme Vichy, Pétain étaient là, on ne connaîtrait jamais ça, les gens avaient confiance, et ils sont extrêmement choqués. Et puis, les juifs étrangers qui vont, eux, être raflés et conduits au camp de Vénissieux, les hommes, ils viennent tous des pays du Troisième Reich, envahis par le Troisième Reich. Ils ont connu le nazisme. Donc, en fait, si vous voulez, pour eux, et d'ailleurs, c'est ce qui les aidera à comprendre l'intérêt de laisser leurs enfants en France, c'est qu'ils savent que de repartir en Pologne, c'est déjà un signe que ça va très mal se passer pour eux.
Bien sûr. Au-delà de l'histoire, moi, ce qui m'a beaucoup ému aussi, c'est votre façon de vous approprier cette histoire. Je me suis dit, pendant 25 ans, elle a vécu avec ses enfants. Quelque part, c'est comme si elle avait participé aussi à ce sauvetage. Ses enfants, ses histoires, c'est aussi un petit peu... vous y avez donné tant de vous que moi, je me suis dit, quelque part en 42, elle était là, elle les a sauvés. Elle aurait pu le faire aussi, Valérie Porteret.
Écoutez, je suis vraiment très touchée par ce que vous me dites. Je suis très émue et je ne pourrais pas aller contre ce que vous venez de dire, surtout que j'ai vécu vraiment des moments très émouvants avec chacun de mes témoins, parfois sur des très longues périodes, 18 ans, 20 ans, et parfois je les ai accompagnés jusqu'au seuil de leur vie, et Vraiment, voilà, je vous remercie.
Tous étaient des membres un peu de votre famille.
Ben oui, comme on dit, on a sa famille et puis parfois on a une famille agrandie.
Tout à
et,
fait.
C'est vrai que j'ai eu beaucoup des anciens enfants sauvés qui ont même partagé des moments,
avec vous.
Même de famille.
Oui.
L'autre Lévi qui n'avait pas eu d'enfants,
oui.
Elle venait à la maison pour la fête des mères. Jean Stern venait célébrer les communions de mes enfants. Parfois aussi, ça a été une recherche en archives. Par exemple, Jean Baumel n'avait jamais connu le visage de ses parents autre que par des photos de la police judiciaire prises de profil au moment où ses parents étaient déjà exténués par tout ce qu'ils avaient vécu.
Bien sûr.
Et dans les archives, j'ai pu retrouver un beau portrait de ses parents, jeunes et d'ailleurs magnifiques, qu'il a fait agrandir. Et voilà, on a partagé aussi des moments... En fait, on a travaillé ensemble, on a reconstitué à la fois un pulse d'un récit, mais en plus, on a partagé des moments de vie intenses ensemble.
Et puis, vous leur avez donné une famille qu'ils avaient perdue parce que les parents obligés de les abandonner pour leur sauver la vie aussi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, ces enfants ont vécu leur vie en se demandant ce qui s'était passé réellement avec
eux. Bien sûr.
Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas pourquoi du jour au lendemain leurs parents les avaient pris dans leurs bras, pourquoi au dernier moment, mais là elle me racontait sa maman lui avait remis ses boucles d'oreilles. Ils ont compris, c'était peut-être un au revoir, mais peut-être pas un adieu.
Oui.
Et puis la guerre s'est terminée et puis la plupart sont devenus orphelins des deux parents et n'ont
Bien
pas
sûr.
Eu de réponse en fait à leurs questions. Donc c'était sans doute un moment très difficile ensemble aussi de découvrir tout ça, mais un soulagement.
Oui.
Au moins, elles avaient une histoire.
Oui, mais votre livre aussi, j'espère, servira aussi à une forme de didactique, d'éducation. Parce qu'à une époque où on parle de nouveau d'antisémitisme, on se rend compte que 30% de la population des jeunes ne savent pas ou ne connaissent pas ou ne savent pas ce que c'est la Shoah. Je me suis dit aussi, ce livre, c'est un livre d'éducation, un livre aussi pour la mémoire, le devoir de mémoire. Ne pas oublier sans faire de la tristesse, sans faire de la mélancolie, mais ne pas oublier. Et ce livre, j'espère qu'il servira aussi à cela, à apprendre, aussi à éduquer.
Mais écoutez, vous répondez vraiment à mes attentes, à celles de l'éditeur Ixo, puisque vraiment le but, c'était d'arriver à écrire un ouvrage qui rentre dans toutes les maisons, qui rentre dans toutes les écoles. Vous savez, un peu comme le journal d'Anne Frank.
Tout à fait. J'y
ai
pensé.
Votre enfant, vous dites, est-ce que tu as lu le journal d'Anne Frank?
Tout
et bien voilà, si un jour, dans les familles, on entendait, est-ce que tu as lu, vous n'aurez pas les enfants, ben voilà, ça serait formidable.
Oui.
C'est vraiment le but, la mission qu'on a essayé de se donner avec l'éditeur en écrivant cet ouvrage.
Oui, maman, en tout cas, moi je le ferai tourner autour de moi, votre livre, n'en doutez pas, Valérie Porteret.
Alors, écoutez, vraiment, je vous remercie de tout cœur.
C'est très gentil. Alors au-delà de ce livre, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Dites-nous.
Alors, peut-être pas d'écriture, mais déjà un projet d'adaptation, un grand film, voilà. Si vous vouliez, dans la suite, pour moi, logique et d'un rêve, ça serait que l'ouvrage soit adapté au cinéma.
Ça, ce serait formidable.
Qu'on ait un très beau film de référence, un film qui puisse après refaire découvrir le livre ou le livre qui fasse découvrir le film.
Ça, ce serait formidable. Ce serait une belle idée. C'est vrai qu'en lisant le livre, on peut imaginer un très beau film. On voit un petit peu l'image, peut-être en noir et blanc même, voyez l'image, un petit peu. Oui. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'était très intéressant de vous avoir et ce livre très émouvant, Vous n'aurez pas les enfants de Vénitieux, de Valérie Porteret, aux éditions Ixo. C'est vraiment, merci infiniment pour ça, pour vos recherches, pour vos 25 ans de recherche, cette belle volonté, ce courage et continuez. Et puis j'espère que vous obtiendrez la réalisation de ce livre, livre en film en tout cas.
Vous.
Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois, Valérie Porteret. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.